Vous écoutez bien Radio France Internationale. Il est midi en temps universel et 13h ici à Paris.
RFI Midi.
L'heure du journal, bonjour Charlotte Hydrac.
Bonjour, avec à la une un dispositif sécuritaire exceptionnel et pression maximale pour le match France-Israël ce soir. Au Stade de France, c'est du football, mais l'enjeu est en fait beaucoup moins sportif que politique. Israël accusé de crimes de guerre à Gaza dans un nouveau rapport de l'ONG Human Rights Watch. De son côté, l'armée israélienne affirme avoir ouvert des enquêtes sur plusieurs de ses soldats. À suivre aussi les visages de la future diplomatie américaine, Donald Trump s'entoure de partisans d'une ligne dure face à la Chine. Des flux migratoires records dans les pays de l'OCDE cette année encore, avec des taux d'emploi particuliers. Élevé. Et puis la sexualité des Français, étudiée à la loupe dans une vaste enquête sur 10 ans. Globalement, les Français font moins l'amour, le font un peu plus tard, mais ils le font mieux.
Le sélectionneur de l'équipe de France de football l'a reconnu, le climat est lourd et pesant selon Didier Deschamps pour le match de ce soir entre la France et Israël.
En plein conflit au Moyen-Orient et après les violences entre supporters qui avaient éclaté la semaine dernière à Amsterdam en marge d'un match du Maccabi Tel Aviv, la rencontre de ce soir au Stade de France est donc sous très haute surveillance. 4000 membres des forces de l'ordre mobilisés, ce sera tolérance zéro, affirme le préfet de police. Une faible affluence de spectateurs est attendu au stade. En revanche, il y aura du monde dans la tribune d'honneur, notamment le président Emmanuel Macron. Selon son entourage, c'est un message de solidarité après les violences qui ont visé les supporters israéliens à Amsterdam. D'autres personnalités assisteront également à ce match particulier, Aurélien Devernois, un match qui a depuis longtemps dépassé le cadre sportif.
Et c'est bien l'un des paradoxes de ce France-Israël comptant pour la Ligue des Nations, les appels répétés des dirigeants politiques pour que le sport reste en dehors du conflit au Proche-Orient et par ailleurs, leur présence massive pour afficher leur soutien aux supporters israéliens et à la communauté juive de France. Un jeu dangereux, selon la France Insoumise, qui dénonce une assimilation entre les Français juifs et le gouvernement israélien. Ce n'est pas l'avis du président du Conseil représentatif des institutions juives de France, Yonatan Arfi, qui voit au contraire un signal fort, car outre Emmanuel Macron, le Premier ministre Michel Barnier sera également présent, tout comme le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande. Objectif, afficher un front uni contre l'antisémitisme, mais aussi envoyer un message à Benjamin Netanyahou, celui que la France est mobilisée à ce sujet. Mais quid des Palestiniens, s'interroge une partie de la gauche. La France insoumise, encore elle, aurait souhaité que la rencontre soit annulée. Elle a décidé de tenir un rassemblement non loin du Stade de France. Son mot d'ordre, face au génocide, le sport n'est pas neutre.
France-Israël, coup d'envoi, 20h45, heure de Paris.
Israël accusé de nettoyage ethnique dans certaines zones de la bande de Gaza.
C'est le terme employé par Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd'hui. Selon l'ONG, les ordres d'évacuation à répétition de l'armée israélienne dans le territoire palestinien mènent à des transferts de population, de civils qui ne pourront plus revenir. L'armée israélienne, elle, affirme mener des enquêtes sur certains de ses soldats accusés de crimes de guerre à Gaza, d'attaques contre des populations civiles. Mais ces enquêtes vont-elles aboutir, servir à quelque chose? En Israël, certains en doutent, Sami Bourlifa.
Maurice Hirsch, ancien procureur de l'armée israélienne pour les territoires palestiniens de Cisjordanie occupée, est catégorique. L'armée a toujours fait preuve d'exemplarité.
La position principale de l'armée, c'est qu'elle ne tolère aucun comportement criminel de la part de ses soldats.
La preuve, selon lui, l'armée a ouvert 74 enquêtes contre ses soldats depuis le début de la guerre à Gaza. 44 pour la mort de détenus palestiniens, 8 pour des mauvais traitements infligés à des prisonniers, 3 pour des destructions de propriétés civiles sans nécessité militaire, 13 pour des vols de munitions de l'ennemi et 6 pour un usage illégal de la force. Ces enquêtes n'aboutiront jamais, regrette Shai Parnes de l'ONG israélienne anti-occupation B'Tselem.
La vérité, c'est qu'Israël est incapable et ne souhaite pas enquêter sur sa propre armée. Dernier exemple en date, le meurtre par un soldat israélien il y a quelques mois d'une militante turco-américaine. L'armée israélienne a dit ouvrir une enquête et depuis, rien. Le crime fait partie de la politique du régime d'Israël d'apartheid.
Pour Hagit Ofran de l'ONG La Paix Maintenant, ces enquêtes permettent à Israël non pas de condamner ses soldats, mais de les protéger.
Lorsqu'il y a effectivement des enquêtes menées dans le pays, alors la Cour pénale internationale ne peut pas intervenir. Donc à mon avis, l'armée israélienne a besoin de montrer qu'elle fait le travail nécessaire afin d'éviter une enquête de la CPI.
Selon ces ONG, les cas de condamnation de soldats sont extrêmement rares. Sami Bourtif à Jérusalem, RFI.
Les conflits au Proche-Orient auxquels Donald Trump a promis de mettre fin.
Comme en Ukraine, sans avoir expliqué comment pour le moment. Pour cela, en tout cas, pour sa politique étrangère, le président américain élu peaufine son équipe qui sera chargée de sa diplomatie avec une nouvelle série de nominations, Lila Olkinwara.
Ce n'est pas encore tout à fait précis sur la politique étrangère, mais on commence à avoir une idée, à commencer par la politique à l'égard de la Russie. D'abord, Marco Rubio à la tête de la diplomatie et Tulsi Gabbard, choisie comme directrice du renseignement, avaient tout pour se contredire. L'ancienne démocrate ralliée à Trump, très pro-russe, justifiait l'invasion de l'Ukraine. Le sénateur de Floride, lui, avait d'abord soutenu l'aide militaire à Kiev. Mais Tulsi Gabbard et Marco Rubio pourraient se rejoindre. Rubio a récemment épousé la position de Donald Trump. Kiev est dans une impasse contre la Russie et les États-Unis doivent être pragmatique plutôt que de dépenser des milliards de dollars en livraison d'armes. Face à la Chine, c'est plus clair. Marco Rubio et Pete Hegseth, choisis par Trump à la tête du Pentagone, se rejoignent. Pékin est une menace existentielle pour Washington. Et selon le présentateur de Fox News, la raison d'être de l'armée chinoise est de vaincre les États-Unis. Sur le Proche-Orient, soutien à l'extrême droite israélienne et volonté de neutraliser l'Iran, c'est l'unanimité au sein de la future administration. Mais sur la Syrie, Tulsi Gabbard, future directrice du renseignement, se distingue pour sa défense de longue date de Bachar el-Assad qu'elle a rencontré en 2017.
Et vous évoquiez Marco Rubio et ses positions dures sur la Chine, également sur l'Iran, la République islamique qui ne compte pas négocier sous la pression sur son programme nucléaire. C'est ce qu'a dit tout à l'heure le chef de la diplomatie iranienne après une rencontre avec le patron de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, en visite à Téhéran. Parmi les autres têtes d'affiche de cette future administration américaine, on en a beaucoup parlé, Elon Musk, entre autres patron du réseau social X. Eh bien, à son tour, le quotidien espagnol La Vanguardia annonce qu'il ne publiera plus ses contenus sur X, la plateforme devenue, selon le journal, un réseau de désinformation avec de plus en plus de contenus toxiques, de plus en plus de bots, ces logiciels robots. Le quotidien britannique The Guardian avait pris une décision similaire hier.
Et on en parlera avec notre invité dans une dizaine de minutes. Le réseau X interdit en Chine. Sur les autres réseaux comme WeChat ou Weibo, les débats autour de l'attaque à la voiture bélier qui a fait 35 morts au début de la semaine dans le sud sont toujours interdits.
Pas de nouveaux commentaires officiels après cette attaque attribuée à un homme qui aurait, selon les autorités, selon la police, qui aurait mal vécu son divorce. Par contre, sur les réseaux, les internautes chinois débattent de manière détournée sur un phénomène qualifié de revanche sur la société, Claire Broadhurst.
L'attaque à la voiture bélier de Zhuhai a déclenché un vif débat sur les réseaux sociaux en Chine où l'on parle de vengeance contre la société. Ce concept désigne des actes violents où des personnes se sentant lésées ou marginalisées attaquent la communauté dans son ensemble. Sur Weibo, un commentaire devenu viral interroge : comment peut-on se venger de la société en tuant autant d'innocents parce que sa vie de famille va mal ? Beaucoup d'internautes pointent du doigt la pression quotidienne et l'importance de traiter les problèmes de santé mentale. Ils appellent à de nouvelles lois pour prévenir de telles violences. Un autre facteur de mécontentement, les forces de l'ordre ne seraient pas suffisamment efficaces dans le traitement des problèmes familiaux tels que le divorce, ce qui a favorisé des représailles violentes lorsqu'il devient trop difficile d'obtenir des résultats satisfaisants. Dans l'affaire de Zhuhai, l'agresseur aurait agi par dépit après un divorce difficile. Ce drame reflète une tendance quand les gens ne trouvent pas de solution à leur conflit personnel ou au défi de la société, certains recourent à la violence pour exprimer leur frustration. Un certain nombre d'incidents violents ont été signalés en Chine cette année, plusieurs attaques au couteau notamment, faisant jusqu'à des dizaines de morts. Cléa Broadhurst, Pékin, RFI.
La brouille diplomatique entre la France et l'Azerbaïdjan relancée après les propos du président Ilan Aliyev à la COP29 sur le climat hier. Il avait accusé Paris de crimes, je cite, notamment en Nouvelle-Calédonie. Conséquence, la ministre française de la transition écologique a annulé son déplacement à Bakou. Le négociateur en chef de l'Azerbaïdjan indique ce matin que La porte reste ouverte. Par ailleurs, la délégation de l'Argentine a reçu la consigne de se retirer des négociations à cette conférence climat, et cela à la demande du président climato-sceptique Javier Milei.
6,5 millions de personnes ont immigré de manière permanente cette année dans les pays de l'OCDE.
C'est un nouveau record, c'est ce que dit un rapport de l'organisation qui, on le rappelle, regroupe une trentaine de pays d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord, ainsi que le Japon, la Corée et l'Australie. Bonjour Nathanaël Vitran.
Bonjour.
De plus en plus de migrants, mais qui contribuent de plus en plus à l'économie des pays qui les accueillent.
Oui, cette forte immigration n'est pas sans poser de défis, reconnaît l'OCDE, mais on est très loin malgré tout du cliché de l'immigrant qui viendrait voler le travail au choix des bons Français, des bons Américains ou des bons Coréens. Ce rapport, au contraire, montre à quel point l'immigration répond d'abord à un besoin de main-d'œuvre dans les pays riches et vieillissants de l'OCDE. Plus de 70% des migrants travail, à peine 7% sont au chômage. Là aussi, c'est un record historique dans un contexte en 2023 où le marché du travail en général se portait lui aussi très bien.
Alors non seulement les migrants travaillent, mais d'après ce rapport, ils créent aussi des emplois.
Oui, d'abord parce que les migrants sont aussi de plus en plus des entrepreneurs. Au sein de l'OCDE, 17% des travailleurs indépendants sont des immigrés. Au Canada, c'est même un entrepreneur sur trois, une réalité qui traduit les difficultés des migrants à trouver un travail salarié, c'est vrai, mais comme il est vrai aussi qu'en créant des entreprises, les migrants créent des emplois. L'OCDE a fait les calculs. 5 nouveaux migrants, c'est un emploi supplémentaire créé dans le pays d'accueil. Au total, en 10 ans, ces entrepreneurs migrants ont créé 4 millions d'emplois au sein de l'OCDE.
Nathanaël Vitran du service économie de RFI.
En France, moins, mais mieux, la sexualité des Français a connu des changements majeurs en 10 ans.
C'est une vaste enquête de référence qui est publiée par l'INSERM. L'Institut a posé des questions à plus de 30 000 personnes, par exemple sur l'âge de la première fois, le premier rapport sexuel. Pour les hommes, en moyenne, c'est à 17,7 ans. Pour les femmes, 18,2 ans. C'est un peu bizarre à dire avec des virgules, hein. C'est l'âge médian. Cette enquête révèle aussi des pratiques sexuelles plus variées, Olivier Sherman.
Premier enseignement de cette étude, les Français ont leur premier rapport sexuel plus tard que leurs aînés. Une tendance qui s'observe dans d'autres pays occidentaux comme les États-Unis, la Norvège, le Danemark ou encore la Suède. Autre élément qui peut sembler paradoxal, les Français font moins souvent l'amour, mais leurs pratiques se diversifient, leurs partenaires se multiplient. Ils ont plus que doublé pour les femmes en 30 ans, notamment grâce aux rencontres via Internet. Une femme fait en moyenne aujourd'hui au cours de sa vie 8 rencontres. Près de 15% des femmes déclarent avoir déjà eu un rapport homosexuel, contre moins de 10% pour les hommes. L'enquête dresse toutefois un tableau de l'ampleur des violences qui demeure inquiétant. 3 femmes sur 10 en 2023 déclarent avoir subi un rapport forcé ou une tentative de rapport forcé, contre 16% en 2006. Dernier point positif de cette étude, 45% des femmes et 39% des hommes se déclarent très satisfaits de leur vie sexuelle actuelle.
13h13 à Paris.
Je suis gentil mais je connais des méchants, c'est pas des coups mais des balles qu'ils échangent.
Jusqu'ici, le titre qui a donné son nom au nouvel EP du rappeur Sydney.
Le rappeur français qui s'interroge dans ce petit album, ce mini-album, sur son parcours, ses échecs, ses réussites aussi. Sydney qui fait en quelque sorte un point d'étape, Olivier Roger.
Enfumé dans mon gamos, je claque des doigts, tout disparaît, j'ai le gant de Thanos. En fit avec Kivik, je déboule jaunais comme les balles de Roland Garros, très bien formé.
Comment se construit un chanteur, un rappeur, un musicien et en filigrane, comment se construit un homme? Voilà ce que dévoile Sydney dans son deuxième mini-album, jusqu'ici un an après avoir sorti Vision. Le francilien venu sur le rap assez tardivement, il a 34 ans, s'est résolu à suivre son penchant musical après avoir côtoyé de longues années durant ses amis Gringe et Orelsan. Si l'on peut juger qu'il partage avec eux la même veine sensible et un spleen lancinant, Sydney s'est aussi façonné l'oreille au rap des années 80. Texte travaillé plume élégante, Sydney a de qui tenir. Son grand-père n'était autre que le génial guitariste et auteur camerounais Francis Bébé. Une généalogie musicale qui effleure parfois consciemment ou non. Sydney évacue au passage des habitudes qu'il juge dépassées, comme sa fascination pour la drill hardcore. Il en a acquis une autre, celle de s'entourer de beatmakers talentueux comme Tigri et sa griffe classieuse.
À chacune de mes fautes, je me dis qu'il n'y a pas mort d'homme. Si tu sautes, je saute. Je veux pas rester dans le Mordor, faut finir sur la côte. Mais je me vendrai pas. Si je ferme mon cœur, vous n'y entrez pas. Hey. Je garde le sourire, c'est tout ce qu'il me reste.
Jusqu'ici donc le nouvel EP du rappeur Sydney, le choix musical aujourd'hui d'Olivier Roger.
Merci Charlotte Hydrac. 13h15 ici à Paris et on va parler de l'actualité sportive avec Christophe Diremzian, bonjour.
Bonjour Anne.
Avec du football d'abord. France-Israël, match de la 5e journée de la phase de groupe de la Ligue des Nations. On en parlait tout à l'heure. C'est une rencontre à double enjeu dans un contexte très tendu.
Oui, le premier enjeu, c'est tout simplement de faire en sorte que tout se passe bien dans un stade de France qui sonne à creux. Hein. 15 000, 20 000 personnes attendues, pas davantage. Les supporters israéliens ont été fortement incités par l'État hébreu à ne pas se déplacer. Et pour tous ceux qui viendront avant tout quand même pour le football, 4 000 policiers et gendarmes déployés aux abords et faits rares dans l'enceinte afin d'éviter les débordements. Second enjeu sur le terrain, les Bleus emmenés par leur capitaine de ce soir, N'Golo Kanté, ne sont qu'à un point de la qualification pour les quarts de finale. Difficile de croire que les Israéliens, l'antenne rouge de la poule avec 4 défaites au compteur, puissent l'empêcher de les obtenir. C'est ce point qui leur manque. Ça n'empêche pas le sélectionneur tricolore Didier Deschamps de se méfier du potentiel des adversaires.
Déjà, c'est une équipe qui a marqué dans ces 4 matchs. Donc voilà, je m'attends à un match difficile aussi parce que je sais très bien que cette équipe va rien lâcher. Ils récupèrent leur capitaine Daza, ils récupèrent un très bon joueur offensif aussi de Leeds, Solomon, Glouk et aussi, voilà. Je sais très bien qu'ils vont tout donner. Ça dépendra beaucoup de nous et ce qu'on fera, bien évidemment.
Didier Deschamps avec Saliou Diouf, France-Israël au Stade de France. Coup d'envoi 19h45, temps universel.
Dans le même groupe que les Français, les Belges, eux, jouent très gros à domicile contre l'Italie.
Oui, la victoire pour espérer encore entrevoir les quarts de finale ou les barrages de maintien en Liga. Au mieux, perspective contrastée pour les Diables Rouges qui ne font pas très peur en ce moment. Ils n'ont battu que les Israéliens depuis septembre. Il faut dire que les joueurs d'expérience commencent à manquer. D'où l'importance du retour dans le groupe de Romelu Lukaku, l'attaquant de Naples, devrait être titularisé pour jouer l'un des leaders d'une équipe qui en compte un autre désormais, le milieu de terrain Amadou Onana, conscient de son nouveau statut malgré ses 23 ans.
Ça fait plaisir parce que voilà, c'est toujours bien de, voilà, d'avoir entre guillemets cette que vos pairs aient ce jugement-là sur vous. Je prends mon rôle de leader à cœur, dans le sens où j'essaie d'aider un maximum les jeunes qui viennent d'arriver. On en a énormément. C'est vrai que c'est une position un peu différente de d'habitude, mais voilà, c'est rien de surnaturel pour moi. Le coach attend tout le temps la même chose de moi. Il y a beaucoup d'autres joueurs qui me voient comme un leader, etc. Et je dois le montrer sur le terrain parce que je pense que c'est là que ça commence, c'est là ma tâche la plus importante. Mon rapport avec le coach a toujours été très bon jusqu'ici et voilà, il m'a toujours fait confiance et je pense que je lui rends bien.
Amadou Onana, le milieu belge face à l'Italie, également à 19h45, temps universel. Semaine féminine également avec la 3e journée de la phase de groupe de la Ligue des Championnes. Belle opération des Lyonnaises hier soir sur le terrain de l'AS Rome. Victoire 3-0 grâce notamment à un doublé de l'internationale haïtienne Milchi du Mornay. L'OL prend la tête de son groupe devant les Italiennes. Et puis dans l'autre poule, Chelsea garde les commandes après son succès chez les Écossaises du Celtic Glasgow 2-1.
Le tennis avec les finales ATP de Turin, journée décisive pour le numéro 1 mondial Yannick Sinner.
Oui, à domicile, l'Italien qui fait face au Russe Daniil Medvedev dans la phase de groupe pour une place en demi-finale. Dieu la suivre à 19h30, temps universel. L'autre place se joue cet après-midi entre l'Américain Taylor Fritz et l'Australien Alex de Minaur. Et puis, prenons des nouvelles des navigateurs du Vendée Globe. C'est toujours très serré pour les premiers concurrents au moment où ils passent au large des îles Canaries. Au dernier pointage, tout à l'heure à 10h, temps universel, Johan Richon, qui a repris la tête de la course cette nuit, a pris 8000 d'avance sur Nicolas Lundven. Thomas Rouillant est troisième à 23000.
Merci Christophe Diremzian. L'actualité sportive est aussi sur internet, rfi.fr.
RFI. Le Monde à midi.
Deux grands journaux européens en 24 heures, deux médias de référence qui ne publieront plus sur X. The Guardian et l'Avanguardia. Le quotidien espagnol estime que X est devenu un réseau de désinformation, toxique même pour le journal britannique. Bonjour Arnaud Mercier.
Bonjour.
Vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Institut français de presse à l'Université Paris Panthéon Assas. C'est vrai, X, ça n'est plus que ça selon vous, un réseau de désinformation ?
Non, ça n'est pas que ça, mais c'est redevenu très largement ça sous l'impulsion d'Elon Musk, alors qu'il y avait déjà eu une phase assez difficile où on voyait de la désinformation, du complotisme prospérer sur Twitter grâce à notamment la pression de l'Union européenne, des réglementations dans divers pays. Il y avait eu une politique de modération pour éviter les plus gros abus et le rachat par Elon Musk a cassé un peu toute cette machinerie de contrôle et a rendu la possibilité à tous ces comptes-là de réintervenir. Donc, un certain nombre d'usagers sont mécontents de ce déséquilibre à nouveau entre la qualité de certains contenus et au contraire certains contenus très contestables.
Avec un manque de visibilité pour certains médias et puis des manipulations même. Au mois d'août dernier, par exemple, X avait très discrètement mis en place un décalage de 5 secondes pour accéder au site du New York Times, par exemple. Donc, il fallait attendre. On peut imaginer que ça décourage certains utilisateurs. Dans ce cas-là, est-ce que les médias ont des recours ou est-ce qu'en fait Elon Musk fait ce qu'il veut sur sa plateforme ?
Oh, très clairement, Elon Musk fait ce qu'il veut. C'est une entreprise privée, en fait. C'est vrai que toute l'ambiguïté, et pas que de Twitter, X, mais aussi de Facebook et autres, c'est que ce sont des objets dont on s'est approprié la possibilité de communiquer, de parler, de s'exprimer, pour en faire quelque chose qui ressemble à une sorte de service public, hein, au sens c'est contributif au fonctionnement de l'espace public. Et pourtant, ça reste des sociétés régies par du droit privé. Et quand un milliardaire comme Elon Musk s'empare de ça, c'est pour en faire ce qu'il veut et non pas pour le mettre au service du bien commun abstrait, mais selon ses volontés.
Ce qui se voit, lui, est clairement en guerre contre les médias traditionnels, il ne l'a jamais caché. Juste après la victoire de Donald Trump, par exemple, il avait eu ce tweet « You are the media now », donc il avait dit à ses utilisateurs que désormais c'était eux les médias. On voit bien l'intention de contourner les grandes chaînes et les grands journaux, mais du côté de X, il n'y a rien à perdre pour la plateforme, pour le réseau social ?
Mais écoutez, quand Elon Musk a racheté pour 44 milliards de dollars, alors pas lui tout seul, hein, puisqu'il y a un consortium d'actionnaires avec lui, mais tout le monde se disait c'est incohérent, et moi le premier, je dis mais comment on peut mettre autant d'argent dans un réseau qui ne vaut pas ça, et en plus comme il avait cassé une partie de tout l'appareil qui consistait à essayer justement de rendre plus fiables les contenus qui passaient sur Twitter, on s'est dit mais où va-t-il ? Et en fait, on a compris progressivement que il avait acheté un réseau d'influence, comme par exemple le fait Vincent Bolloré en rachetant iTélé, le JDD, Europe 1, parce qu'il est dans une guerre culturelle pour essayer d'en faire autre chose et de changer complètement la ligne éditoriale. C'est ce qu'a fait Elon Musk. Et finalement, il n'y a pas de rationalité économique à ce qu'il fait, puisque beaucoup d'annonceurs ont quitté Twitter, qu'il a manifestement, il ne rentrera jamais dans ses frais de 44 milliards du point de vue économique, mais peu importe, puisque visiblement son agenda était politique, et là, de ce point de vue, il a plutôt emporté le morceau, puisqu'il va même se retrouver membre de l'administration Trump pour mettre en place ses idées sur libertariennes, sur l'affaiblissement de l'État fédéral, etc. Donc son retour sur investissement, il n'est pas économique, mais il est politique.
Et est-ce que vous pensez que ça ne risque pas de se tarir ? Vous nous parliez de l'exemple de Vincent Bolloré qui lui rachète des médias. Elon Musk, là, c'est un réseau social. Est-ce que ça bénéficie du même vernis, entre guillemets, de crédibilité que des journaux ou des chaînes de télévision ?
Non, bien sûr, ce n'est pas tout à fait la même logique de ce point de vue, mais il est un fait que c'est déjà son média à lui, hein, il a plus de 200 millions de followers, il pousse ses contenus, même vous n'êtes pas abonné à Elon Musk et vous recevez quand même des messages d'Elon Musk, hein, donc il fait absolument ce qu'il veut avec pour s'exprimer, il laisse s'exprimer un certain nombre de gens qui sont conformes à ses idées, ses opinions, pour en faire vraiment un média. Alors évidemment, le risque pour lui, c'est qu'un jour... C'est le sens de l'annonce de certains de ces médias et aussi de chiffres qu'on a, hein, puisque on a vu que dans la semaine 120 000 comptes aux États-Unis ont été fermés. Donc il y a plein de gens qui disent bon bah si c'est comme ça, moi je quitte Twitter. Mais ce qui passe sur, enfin c'est facile de quitter Twitter, mais pour aller où ? Donc qu'est-ce que font les gens ? Est-ce qu'effectivement il va devenir à terme, hein, un réseau social qui n'aura d'influence qu'auprès de gens qui veulent bien y rester parce qu'ils partagent exactement les mêmes convictions, alors qu'aujourd'hui, il est allé là pour porter le fer avec des gens qui ne partagent pas du tout ses opinions.
Oui, c'est ça. Donc, pour sortir de cette bulle complotiste, alors les médias dont on parlait ne sont pas les premiers à quitter X il y a un an déjà, enfin un peu plus même. La radio NPR et la télévision publique PBS aux États-Unis avaient annoncé la même chose. Et d'après un bilan de NPR, en fait, ça n'a pas eu vraiment d'incidence majeure sur la fréquentation de son site Internet. Est-ce que vous pensez que les effets seront les mêmes pour des médias européens ?
Oui, je pense, bien sûr. Je pense que ce sont des médias qui ont suffisamment pignon sur rue dans leurs pays respectifs pour avoir d'autres réseaux pour faire connaître leur contenu, pour avoir d'autres moyens de faire en sorte que ceux qui les suivent continuent à les suivre. Donc ça, je pense que ça n'est pour eux, c'est pas une perte majeure, mais faut être clair quand même, hein, que ce soit la Vanguardia à Barcelone ou le Guardian à Londres, dans les deux cas, ils disent que, et même NPR aux États-Unis, ils disent qu'ils sont restés sur Twitter, que les journalistes restent pour regarder ce qui s'y passe, pour pouvoir faire état éventuellement d'informations. Donc, ils continuent quand même à l'utiliser comme une source pour observer ce qui s'y passe. Donc, pour l'instant, même eux n'envisagent pas une rupture total, fondamental avec ce qu'a été de Twitter pendant très longtemps, c'est-à-dire un lieu d'expression des chercheurs, des journalistes, des experts, des politiques, etc. Et donc un lieu où il fallait être.
Et qui reste encore, malgré tout, un peu incontournable. Merci beaucoup Arnaud Mercier d'avoir été en ligne avec nous, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Institut français de presse à l'Université Paris Panthéon Assas. Alors que la COP29 se poursuit à Bakou, je vous propose de faire un bilan d'une initiative lancée lors d'une précédente conférence sur le climat il y a 3 ans. Le JETP, la promesse par les pays occidentaux de financer à hauteur de 8,5 milliards de dollars la transition énergétique en Afrique du Sud. Depuis, ce modèle a été décliné en Indonésie, au Vietnam, au Sénégal. Et en Afrique du Sud, la somme promise atteint désormais près de 13 milliards de dollars. C'est un plus, nettement, Claire Barjolès, mais il reste encore beaucoup à faire pour la transition.
Un plan d'investissement a depuis vu le jour, estimant à plus de 90 milliards d'euros les besoins afin de réaliser cette transition d'ici 2027. Outre que la somme du partenariat initial est donc loin du compte et qu'elle est constituée principalement de prêts et non de subventions, la distribution des fonds est aussi compliquée selon Joanna Witch. Elle gère le financement des projets au sein de la présidence.
Chaque pays amène de l'argent de façon séparée. Les contributions britanniques sont accordées d'une telle façon, les contributions américaine à travers un autre mécanisme et pour d'autres objectifs. Donc, on a affaire à un ensemble d'investissements assez complexes avec chaque pays qui utilise sa méthode habituelle de financement avec l'Afrique du Sud.
Du côté de la société civile, on regrette déjà un manque de transparence au niveau de la distribution des subventions, mais aussi lors du choix des 3 volets prioritaires, décarbonation de l'électricité, véhicules électriques et hydrogène vert, comme l'explique Liane Govindsamy du Centre pour les droits environnementaux.
Je pense qu'il y a eu beaucoup de scepticisme parce que les secteurs prioritaires ont été sélectionnés avant d'avoir consulté les citoyens. Par exemple, pour l'instant, en ce qui concerne les subventions, il y a eu davantage d'argent dépensé pour le secteur de l'hydrogène vert que pour le développement de nouvelles compétences. On peut donc se questionner sur ces choix et se demander si les pays donateurs viennent avec leurs idées prédéterminées ou s'ils écoutent pour savoir ce qui peut fonctionner le mieux en Afrique du Sud.
Après de nouvelle consultation, un plan d'action a finalement inclus d'autres volets à financer. Mais depuis, Pretoria a aussi décidé de retarder de 6 ans la mise hors service d'au moins 3 de ses centrales. Selon Soutame Maimele de l'Institut de recherche TIPS, il n'est pas évident pour le pays, qui produit près de 80% de son électricité à base de charbon, d'effectuer une transition rapide.
Nous avons eu des problèmes de pénurie d'énergie en Afrique du Sud, donc la question de la sécurité énergétique est un sujet clé. Et on sait aussi qu'il y aura beaucoup de travailleurs de la filière du charbon qui seront touchés surtout dans la région de Mpumalanga. En tout, on parle de 150 à 200 000 emplois qui dépendent de la filière.
Beaucoup de questions restent également en suspens, comme le choix du futur mix énergétique du pays. Mais le plus gros pollueur du continent sera bien obligé de transformer ses moyens de production s'il veut continuer à exporter vers l'Europe malgré la taxe carbone aux frontières. Claire Barjolès, Johannesburg, RFI.
Merci d'écouter RFI. Il est 13h30 quasiment ici à Paris et on se retrouve dans quelques instants pour l'actualité africaine. À tout de suite.
Carrefour du Maghreb, Juliette Rangeval.
Rencontre avec Simone Bitton. Dans son dernier film, Les mille et un jours du Hadj Edmond, la réalisatrice adresse une missive cinématographique à Edmond Amran El-Maleh, écrivain disparu en 2010, et elle poursuit son voyage sur les traces des Juifs du Maroc, une identité qui disparaît.
Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval, tous les samedis à 11h10 TU sur RFI.